Vous écoutez, on lit pour vous.
Le monde disposera d'un excédent majeur de pétrole d'ici 2030, selon l'AIE. Un texte de Nathalie Alonzo, de l'agence France-Presse, paru le 12 juin 2024 dans Le Devoir. Le monde va-t-il produire plus de pétrole qu'il n'en réclame? L'Agence internationale de l'énergie s'attend à un excédent majeur sur les marchés pétroliers d'ici 2030 sous l'effet cumulé d'une hausse de la production et de la transition vers les énergies propres qui modèrent la demande. La demande mondiale devrait se stabiliser à 106 millions de barils par jour vers la fin de la décennie, tandis que la capacité d'approvisionnement globale pourrait atteindre 114 millions de barils, estime mercredi l'AIE dans son rapport annuel sur le pétrole. Il en résulterait un excédent stupéfiant de 8 millions de barils par jour auquel les marchés devraient se préparer, estime l'AIE. Alors que le rebond de la pandémie s'essouffle, que la transition vers les énergies propres progresse et que la structure de l'économie chinoise évolue, la croissance de la demande mondiale de pétrole ralentit et devrait atteindre son maximum d'ici 2030, a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE, cité dans un communiqué. Dans cet environnement d'excédent majeur de l'offre, les compagnies pétrolières pourraient vouloir s'assurer que leurs stratégies et leurs plans d'entreprise sont préparés aux changements en cours, a-t-il ajouté. Le rapport annuel de l'AIE sur les marchés pétroliers intervient quelques jours après la décision du cartel des exportateurs de pétrole et ses alliés réunis dans l'OPEP+, de lever progressivement ses réductions de production d'or noir, lâchant ainsi du lest sur cette politique de raréfaction de l'offre entamée fin 2022 pour soutenir les cours. Dans son rapport, sur la base des politiques actuelles et des tendances du marché, l'AIE fait tout d'abord le constat que la forte demande des économies asiatiques à croissance rapide comme l'Inde et la Chine, ainsi que des secteurs de l'aviation et de la pétrochimie, devrait continuer de stimuler la consommation de pétrole dans les années à venir. L'Agence de l'énergie de l'OCDE souligne néanmoins que ces gains seront de plus en plus compensés par des facteurs tels que l'augmentation des ventes de voitures électriques, l'amélioration du rendement énergétique des véhicules conventionnels, thermiques, note de la rédaction, la diminution de l'utilisation du pétrole pour la production d'électricité au Moyen-Orient. Autant de données qui devraient contribuer à limiter la croissance de la demande à plus 4 % d'ici 2030 à 106 millions de barils par jour contre 102 millions en 2023. En particulier, note l'AIE, la demande de pétrole dans les économies avancées devrait poursuivre son déclin engagé depuis des décennies, passant de près de 46 millions de barils par jour en 2023 à moins de 43 millions de barils par jour en 2030, son niveau le plus bas depuis 1991, mis à part la période de la pandémie de COVID-19. Environnement de prix bas. Dans le monde, les États et entreprises accélèrent les investissements dans les énergies propres pour réduire les rejets de gaz à effet de serre issus des énergies fossiles qui réchauffent la planète. Dans le même temps, l'AIE s'attend à ce que la production mondiale de pétrole augmente sous l'impulsion des producteurs non membres de l'OPEP+, notamment des États-Unis. L'offre mondiale dépasserait ainsi la demande prévue dès 2025, ce qui engendrerait un excédent de 8 millions de barils vers la fin de la décennie, des niveaux jamais vus en dehors de la crise de la COVID. Un tel excédent de capacité de production pourrait ouvrir la voie à un environnement de prix du pétrole plus bas, soulevant des défis difficiles pour l'industrie américaine du schiste et le bloc OPEP+, dirigé par l'Arabie saoudite et la Russie, selon le rapport. Dans son rapport mensuel sur le pétrole, qui explore les tendances à plus court terme, l'Agence de l'énergie a revu légèrement à la baisse ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2024, qu'elle évalue désormais à 960 000 barils journaliers, après avoir déjà abaissé ses prévisions le mois dernier à plus 1,1 million de barils. Et pour 2025, l'AIE s'attend à ce que les perspectives moroses du pétrole se poursuivent, avec une augmentation modeste de 1 million de barils par jour, en deçà de sa précédente estimation qui tablait sur une croissance de 1,2 million. C'était « Le monde disposera d'un excédent majeur de pétrole d'ici 2030 », selon l'AIE, un texte de Nathalie Alonso de l'agence France-Presse paru le 12 juin 2024 dans Le Devoir.
Actes de Dieu et Histoire d'eau. Un texte de Michel Séauger paru le 18 août 2024 dans La Presse. À l'été 2024, en quelques semaines, nous avons vécu des inondations causées par la fin de course d'un ouragan et la rupture d'une conduite d'eau majeure en plein cœur de Montréal. Les deux événements ont des points en commun. La négligence quant à l'entretien et la planification à long terme des infrastructures et le défi que posent les changements climatiques. Deux situations qu'on n'ignore pas, mais qu'on essaie trop souvent de ne pas regarder en face. Avant d'aller plus loin, un mot sur la présence ou non des dirigeants politiques sur le terrain à la suite de catastrophes comme celles que l'on a connues depuis quelques semaines. Que Valérie Plante ou François Legault soient sur les lieux dans les heures suivant un désastre n'y changerait rien. À la rigueur, leur présence pourrait nuire aux interventions des équipes d'urgence. Même si la mairesse ou le premier ministre revêtait un habit d'homme-grenouille pendant toute une journée, cela ne changerait rien à l'affaire, et les juger sur leur présence ou non dans les minutes qui suivent une catastrophe est à la fois trop simple et certainement injuste. Il est certes souhaitable d'aller réconforter les sinistrés, mais ce qu'on demande surtout à nos dirigeants, c'est de travailler à prévenir de nouveaux sinistres une fois qu'ils seront de retour à leur bureau. De même, la compétence de nos services publics n'est pas en cause. Le problème, c'est que de tels événements se produisent de plus en plus souvent. Aujourd'hui, la priorité devrait donc être de comprendre l'importance combinée des changements climatiques, du vieillissement des infrastructures et des effets dominos qui s'ensuivent nécessairement. D'autant qu'on sait que de tels phénomènes vont se multiplier. On attendra évidemment les résultats de l'enquête sur la rupture de canalisation à Montréal, canalisation qui datait de 1985 et ne pourrait donc pas être qualifiée d'infrastructure vieillissante, avant de déterminer les causes exactes du sinistre sous le pont Jacques-Cartier. Mais on peut craindre que plusieurs facteurs combinés, dont les changements climatiques, soient en cause d'une manière ou d'une autre. Montréal n'a jamais été sur la carte de la fin de vie des ouragans. Ce n'est plus vrai. L'ouragan Debby vient de le démontrer. En une seule journée, Debby a déversé de 50 à 100 mm de pluie sur la région de Montréal, soit l'équivalent de ce que la ville reçoit normalement durant tout un mois d'août. Ce n'était donc pas un événement prévisible. C'est ce qu'on appelle communément un acte de Dieu, de l'anglais « act of God » ou un cas de force majeure, notion qui a d'ailleurs beaucoup moins de portée dans le monde des assurances qu'on est tenté de le croire. Il n'y a pas un gestionnaire de fonds publics qui va proposer de refaire toutes les infrastructures pour qu'elles puissent résister à des événements qui n'arrivaient auparavant qu'une fois par siècle. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a rien à faire. Il faut dès maintenant se préparer à prévenir les effets d'événements qui seront plus fréquents et surtout plus intenses. Ce n'est pas une préoccupation qui devrait être nouvelle pour nos dirigeants. Dès la campagne électorale de 1993, Jean Chrétien avait reconnu le problème. Les infrastructures urbaines commençaient à vieillir partout au Canada. Il était temps d'investir pour les rénover. Cela a donné sa promesse phare d'un programme national d'infrastructure qui se justifiait également par un taux de chômage élevé. Cette élection devait porter Jean Chrétien au pouvoir et pendant quelques années, il avait réussi à réduire un important déficit tout en investissant dans les infrastructures. Mais la recette a été si populaire que 10 ans plus tard, de nouvelles infrastructures moins essentielles avaient été ajoutées au programme et en ont dilué les effets. Dont des projets pas vraiment structurants comme la rénovation de jardins zoologiques. Comme quoi, les meilleures intentions peuvent être détournées par des impératifs partisans. Mais on reconnaîtra, M. Chrétien, d'avoir vu avant bien d'autres la nécessité de rénover les infrastructures dont personne ne voulait se soucier. Comme l'avait dit l'ancien premier ministre à l'époque, il n'y a pas un politicien qui cherche à se faire photographier devant un égout collecteur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, le Québec, comme le Canada, aurait besoin d'un vaste programme d'infrastructures, non seulement pour réparer de vieilles installations, mais aussi pour prévenir les pires effets des changements climatiques, dont on ne parlait pas encore au siècle dernier. Malheureusement, à Ottawa, on entend beaucoup plus parler de mesures populistes comme l'abandon de la taxe sur le carbone, comme si les mesures visant à limiter les changements climatiques ne sauraient être des priorités quand arrive une année électorale. À Québec, le gouvernement semble privilégier l'envoi rapide de chèques aux sinistrés plutôt que les mesures de prévention des sinistres. Les politiques à court terme, c'est-à-dire celles qui pourraient avoir des effets avant les prochaines élections, sont toujours un enjeu plus important que l'urgence de s'attaquer aux causes. C'était Actes de Dieu et Histoire d'eau, un texte de Michel Séauger paru le 18 août 2024 dans La Presse.
Tout ce que vous voulez savoir sur le divorce, un texte de Olivia Lévy, paru le 4 août 2024 dans La Presse. Michel Dayan, avocate spécialisée en droit de la famille, a, pendant 30 ans, plaidé et écouté des milliers de familles en pleine séparation. Dans son livre « Nous nous sommes tant aimés », elle raconte la famille française vue à travers les séparations et l'évolution des mœurs. Entrevue. Qu'est-ce qui a le plus changé en 30 ans? L'évolution des rôles et des rapports entre les hommes et les femmes. Je dirais surtout que les hommes sont devenus des mères comme les autres. En 30 ans, la garde des enfants n'est plus le privilège des mères. Les femmes ne sont plus réduites à la maternité. On le voit à travers nos lois. C'est fondamental, car cela change le quotidien des mères, des pères et des enfants, ça donne une autre dynamique à la société et ça change la vision des rôles dans la société pour les décennies à venir. Il y a aussi le fait que la violence conjugale n'est plus une affaire privée. La loi est entrée dans le foyer, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Même si la parole s'est libérée. Ce sont les femmes qui, en grande majorité, demandent le divorce. Pourquoi? Oui, dans 70% des cas, ce sont les femmes qui demandent le divorce. Les hommes ne partent que s'ils ont quelqu'un d'autre dans leur vie, en grande majorité, ce qui n'est pas le cas des femmes. Je pense aussi que les femmes ont une plus grande intolérance à l'inconfort en couple, et qu'elles craignent moins de se retrouver seules. Il y a aussi la violence conjugale. Les femmes en sont le plus victimes et elles ont envie de partir. La première cause du divorce, c'est l'adultère, la deuxième, la violence conjugale. Les violences sont plus conscientisées et on pose plus de questions. Je pose la question de façon systématique. Avez-vous subi de la violence? Il faut que les avocats, les policiers, les médecins posent des questions, car les victimes de violences conjugales ressentent toujours de la honte. Des divorces heureux, vous en voyez? Oui, de plus en plus. Quand j'ai commencé, il y a 30 ans, très souvent, divorcer était un drame. Aujourd'hui, le divorce s'est banalisé. Comme votre voisine, vos amis, votre frère, votre sœur, oncle, tante, vivent la même chose que vous, vous vous sentez moins seul. La médiation qui existe au Québec depuis plus longtemps qu'en France permet de trouver des accords et parfois d'éviter le conflit. Le drame de la séparation, c'est que c'est toujours la fin de quelque chose. Une fin, c'est triste. Mais ce n'est pas forcément un échec. Je vois de plus en plus de couples qui divorcent et qui s'entendent bien. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des couples qui se détestent à vie. On est malheureux avant le divorce, mais ça peut être le début d'une nouvelle vie. Beaucoup le vivent comme ça, et je le vois parmi toutes les générations. Le divorce des 60 ans et plus a triplé au cours des 30 dernières années. Comment expliquez-vous ce phénomène? L'espérance de vie a augmenté. On est en meilleure santé et on veut profiter des 10 ou 15 années qui nous restent. Les femmes à 65 ans veulent une vie sociale, amoureuse, sexuelle, et le vent de liberté qui souffle sur les jeunes femmes souffle aussi sur leur mère. On peut être heureuse sans être en couple, continuer à vivre sa vie. Il peut cependant y avoir des problèmes de précarité économique dans un divorce, ne l'oublions pas, et les perdantes d'un divorce d'un point de vue économique, ce sont les femmes. Les enfants prennent-ils plus mal le divorce de leurs parents quand ils sont plus grands? Oui, les enfants sont très conservateurs. Je vois qu'après l'âge de 30 ans, ils sont très surpris. Et ça ne les arrange pas, car les grands-parents gardent les petits-enfants. Souvent, à la suite du divorce, un des parents est malheureux ou en situation de précarité, alors il faut s'en occuper et la charge pèse sur eux. La famille, en cette époque un peu troublée, est une valeur refuge. Le mariage des parents, la maison familiale qui ne bouge jamais, c'est quelque chose qui rassure. Mais ça peut disparaître et, tout d'un coup, ils redeviennent des enfants. Il y a aussi, dans certains cas, des problèmes d'héritage quand un des parents se remarie et a d'autres enfants. Est-ce que le droit évolue au même rythme que la société? Non, la société évolue plus vite et le droit finit par entériner une situation de mœurs qui a évolué. C'est le cas pour la garde partagée et pour le mariage pour tous où c'était intenable, ces différences de situation pour les couples homosexuels. Les juristes sont très conservateurs, tout comme le Parlement. C'est bien d'attendre qu'il y ait un vrai besoin de légiférer, mais on attend un peu trop longtemps. Il faudrait aller plus vite. La loi a très souvent 5 ou 10 ans de retard. Mais ça dépend des politiques, du gouvernement, et en France, on est très conservateur, plus qu'au Québec. Qu'est-ce que vous diriez aux couples aujourd'hui pour que leur divorce se passe bien? On est toujours responsable de 100% de la moitié du problème, sauf en cas de violence. Il faut s'interroger. Tout le monde a ses zones d'ombre. Un lien, ça se fait à deux et ça se défait à deux. C'était « Tout ce que vous voulez savoir sur le divorce », un texte de Olivia Lévy, paru le 4 août 2024 dans la presse.
De Radio-Canada à TVA, Michel Jean aura été un électron libre. Un texte d'Étienne Paré paru le 19 août 2024 dans Le Devoir. Michel Jean a animé à midi le vendredi 16 août 2024 son dernier bulletin de nouvelles sur les ondes de TVA. « Mais je ne prends pas ma retraite », tient à préciser le meilleur vendeur de livres au Québec. L'écriture occupera d'ailleurs beaucoup de son temps au cours des prochains mois. Son nouveau roman est attendu pour 2025. D'autres projets sont aussi en chantier, notamment une possible adaptation à la télé de son succès de librairie, Cocoum. Bref, si on a pu le lire lorsque la nouvelle de son départ a commencé à s'ébruiter, que Michel Jean prenait sa retraite, il serait en fait peut-être plus juste d'écrire qu'il quitte tout simplement TVA. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa dernière journée de travail au 1600 boulevard de Maisonneuve-Est fut passablement occupée, LCN ayant été en émission spéciale durant plusieurs heures à cause de cette gigantesque fuite d'eau qui a inondé une partie du secteur centre-sud à Montréal. C'est sûr que je vais m'ennuyer de cette adrénaline que procure le direct durant ce genre d'événement, confiait-il en entrevue avec Le Devoir, quelques heures avant d'entrer en onde pour une dernière fois sur le réseau le plus écouté au Québec. Cette adrénaline, Michel Jean y aura carburé durant près de 40 ans de carrière. Au début des années 2000, à l'époque où il était une étoile montante à Radio-Canada, il a été dépêché aux quatre coins du monde, bravant parfois le danger, comme en Haïti, quand il s'est retrouvé bien malgré lui au cœur d'une fusillade. « Disons que ça m'a un peu secoué », glisse-t-il aujourd'hui d'une manière assez euphémisante, comme pour dédramatiser ce qu'il a vécu. Le journaliste vedette garde aussi un souvenir impérissable des débuts de la guerre en Irak, qu'il a couvert depuis le toit de son hôtel, et des rencontres qu'il a faites au Sri Lanka après le passage destructeur du tsunami en décembre 2004. Mais de tous les événements historiques dont il a été témoin, ce sont les attentats du 11 septembre 2001 qui l'auront le plus troublé. C'était proche de nous. Mon cerveau n'était pas prêt à voir la désolation que j'ai vue, relate celui qui fut l'un des premiers journalistes à atteindre le site de Grande Zéro. En 2008, il a fait paraître Envoyé spécial, un ouvrage dans lequel il revient sur ses couvertures les plus marquantes. Longtemps, Michel Jean s'est demandé à quoi aurait ressemblé sa vie s'il était resté à Radio-Canada à parcourir la planète. « J'aurais sûrement fini correspondant quelque part dans le monde. J'adorais partir à l'étranger pour des couvertures sur le terrain. C'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué quand je suis parti de Radio-Canada, mais en même temps, je pense que si je n'étais pas allé à TVA, je n'aurais jamais écrit de livre. » C'est à cause d'un guide que l'on avait fait pour l'émission JE que j'ai commencé à écrire, soupèse-t-il, en repensant à cette période. Un musicien jazz dans un groupe rock. Après avoir refusé une première offre, Michel Jean accepte finalement de passer à TVA en 2005 pour co-animer l'émission JE, qui prenait alors un virage en devenant un magazine essentiellement axé sur la protection du consommateur. Sa mère, une fidèle auditrice de Radio-Canada, a pleuré lorsqu'il lui a annoncé qu'il quittait le diffuseur public pour se joindre à cette chaîne privée très portée sur les faits divers. À Radio-Canada, je me faisais souvent dire que je faisais trop TVA, et à TVA, on me disait que j'étais trop Radio-Canadien. Peu importe où j'ai été, je me suis toujours senti comme un musicien de jazz dans un groupe de rock. Mais ce qui a fait pencher la balance en faveur de TVA, c'est qu'à Radio-Canada, il y a beaucoup de fourmis dans la fourmilière. C'est une énorme boîte et c'est facile de s'y perdre. Les choses avancent lentement. À JE, j'étais dans une position où je pouvais avoir une influence directe, résume-t-il, sans éprouver de regrets a posteriori. En bout de piste, Michel Jean indique s'être beaucoup plus chez Québécois, même s'il a toujours en travers de la gorge, la manière dont il dit avoir été traité par Serge Fortin, l'ancien grand patron de TVA Nouvelles et de TVA Sports. Il lui reproche d'avoir instauré un climat toxique au sein du service de l'information. En 2020, TVA a montré la porte à Serge Fortin, dont le style de gestion a par la suite été comparé à un régime de terreur dans un article paru dans le quotidien La Presse. Michel Jean n'avait pas digéré en 2023 que son ancien collègue Denis Lévesque s'associe avec Serge Fortin pour lancer son balado et il n'avait pas hésité à le lui faire savoir publiquement sur les réseaux sociaux. Les salles de nouvelles sont des endroits propices à un climat toxique, car on est tous des gens passionnés qui travaillent sur la pression. Heureusement, les choses sont en train de changer. Quand j'ai commencé, on acceptait de se faire crier après par les patrons. On se disait que ça faisait partie de la job. Maintenant, les jeunes journalistes n'acceptent plus ça. Ils n'hésitent pas à partir quand ils ne sont plus bien, et c'est tant mieux. Mais il faut demeurer vigilant pour éviter de retomber là-dedans, de prévenir le journaliste et écrivain d'origine innu. Quoi? Peu après le départ de Serge Fortin, Michel Jean a été promu chef d'antenne du TVA Nouvelle Midi. Il ouvrait chacun de ses bulletins en saluant les auditeurs avec le mot « quoi » qui signifie « bonjour » dans les langues algonquiennes. Un geste symbolique dont il a pris l'initiative sans en aviser les patrons et qui lui a valu quelques commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Quand tu es une petite fille qui a grandi dans une réserve sur la côte nord, tu ne te vois pas à la télé. La seule fois que l'on parle de toi, c'est quand il y a un problème avec les Autochtones. On ne réalise pas à quel point les Autochtones ne se sentent pas pris en compte dans la société québécoise. Pour moi, dire « quoi » en ouverture de bulletin, c'était juste une marque de respect pour faire en sorte que les gens entendent au moins un mot dans leur langue. Revendique l'auteur des romans à succès Kimik et Tiotiaké. Le journaliste de TVA a parfois critiqué publiquement certaines chroniques parues dans le Journal de Montréal qui portaient sur les enjeux autochtones. Il dit s'être même plaint auprès des patrons à deux reprises parce qu'il jugeait que ce qui y était écrit versait dans la haine ou dans la diffamation. Pour autant, Michel Jean se défend d'être devenu un militant de la cause autochtone. « Tu ne me verras jamais avec une pancarte dans la rue. Moi, tout ce que je fais comme journaliste, c'est allumer des lumières. Quand la lumière est allumée, les gens peuvent prendre en considération ce qu'ils voient ou ils peuvent éteindre la lumière. Ce n'est pas moi qui vais leur dire quoi faire », illustre-t-il. Au cours des prochains mois, Michel Jean continuera d'allumer des lumières. Il sera, à l'automne 2024, chroniqueur à l'émission « Il restera toujours de la culture ». Annick Jean travaille actuellement sur une adaptation au grand écran de Kimik. Koukoum, qui sera montée cette saison-ci sur les planches du Théâtre du Nouveau Monde, pourrait également devenir une série télé. C'était de Radio-Canada à TVA. Michel Jean aura été un électron libre. Un texte d'Étienne Paré, paru le 19 août 2024 dans Le Devoir.